France Musique.
Bonjour à tous.
Bonjour Rodolphe.
J'avais envie de vous dire bonjour au même moment que vous avez vu.
J'ai vu que vous êtes jeté sur le micro pour dire bonjour avant moi.
Parce que je voulais vous dire qu'on allait écouter de bien belles choses ce matin, et notamment Rameau Monteverdi et le dernier disque de Sergueï Khatchatryan.
Thank you.
Depuis 2016, nous suivons l'intégrale des concertos de Mozart par le pianiste Jean-Eflam Bavouzet avec la Manchester Camerata et le chef Gabor Takacsinadi. Une intégrale qu'il a voulu rapprocher du monde lyrique parce que sur chaque volume, il y a une ouverture d'opéra et sur ce 9e volume, vous l'avez reconnu, l'enlèvement au sérail a été choisi et ce concert, et côté concerto, c'est les 11e, 12e et 13e. Alors ce sont trois concertos qu'on n'entend pas assez, nous dit le pianiste qui font pourtant partie de ses pièces préférées. Il a d'ailleurs un très beau souvenir du 11e concerto joué par Zoltán Kocsis à l'époque, il avait marqué, c'est aussi pour cela qu'il l'aime. Et on va écouter le rondo final du 12e, mouvement malicieux, nous dit Jean-Eflam Bavouzet, qui, comme toujours, lui domine la partition. Alors c'est vrai qu'à chaque fois, on vous le répète, mais c'est un pianiste qui a un jeu qui fait merveille pour nos oreilles, d'une légèreté, d'un lyrisme et d'une sensibilité aussi dans les mouvements lents. Et donc plein de malice et de facétie dans ce rondo, c'est le 12e concerto de Mozart sous les doigts de Jean-Eflam Bavouzet. Le 12e concerto de Mozart, son rondo final par Jean-Eflamme Bavouzé avec la Manchester Camerata dirigée par Gabor Takacsinadze. Alors on est au 9e volume. On ne doit pas être loin de la fin quand même, commencé en 2016.
Oui, c'est bien possible.
Cette intégrale, pas écrit que c'était le dernier volume, donc il doit rester quelques concertos encore à découvrir.
En découverte à nouveau avec les archives du festival de Verbier, Verbier Festival Gold. On a commencé avant-hier, on continue aujourd'hui avec une archive de Esa Pekka Salonen. Nous sommes en 2007, grand concert où il joue le mandarin merveilleux de Bartok, la première symphonie de Schumann et la cinquième de Sibelius. Et c'est évidemment cette symphonie qu'on va écouter avec le Verbier Festival Orchestra. Vous savez, c'est cet orchestre de jeunes gens qui viennent ici pour se perfectionner. C'est un orchestre qui a été fondé en 2000 et l'idée, c'est de permettre à ces jeunes étudiants de rencontrer de très grands chefs qui viennent diriger et travailler le temps d'un moment avec ces musiciens. C'est le cas ici, donc Esa Pekka Salonen qui est venu faire travailler Sibelius à ces musiciens. Dans mon esprit, dit-il, le concert idéal de Sibelius ne doit pas ressembler à une interprétation ni même à un quelconque point de vue. J'aimerais que cela soit comme la glace qui se brise au printemps dans une rivière du Nord, intense, beau, terrifiant et inéluctable. Je ne suis pas certain que quelqu'un soit capable d'y arriver. En tout cas, il a tenté d'y arriver. Et vous savez, cette cinquième symphonie de Sibelius, notamment le dernier mouvement, c'est toujours quelque chose d'assez grandiose. Ici, c'est donc les archives. Alors ces archives, on vous le disait avant-hier, elles sont disponibles uniquement sur les plateformes en téléchargement. Et c'est le label Deutsche Grammophon qui nous propose ceci. Cinquième symphonie de Sibelius, le Verbier Festival Orchestra, Esa Pekka Salonen.
Thank you.
enregistré en 2007 lors du Festival de Verbier. Ici, le final de la 5e symphonie de Sibelius, le Verbier Festival Orchestra, sous la direction d'Esa-Pekka Salonen. Et ça fait partie donc de cette collection Verbier Festival Gold que vous pouvez télécharger sur les plateformes ou sur le site de Deutsche Grammophon. Et on en écoutera encore un extrait lundi, parce qu'il y a plein de belles choses qu'on n'a pas encore totalement écoutées. Un concert de Barbara Hendricks et Kent Nagano.
Musique de chambre maintenant avec Gabriel Lemagadur et ce concert de chaussons.
France Musique, en piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
Thank you.
La Sicilienne du concert de Chausson avec Gabriel Lemagadur, bien connu pour être le second violon du célèbre quatuor Ébène depuis, vous savez combien de temps ça fait ?
Depuis la naissance.
Depuis la naissance, donc ça fait un quart de siècle.
Ah, déjà.
25 ans déjà. Et il fait un pas de côté aujourd'hui en enregistrant un disque en solo, une sorte de parenthèse hors de sa zone de confort, comme il le dit. Alors en solo, il a quand même convié quelques amis. Vous avez entendu dans ce concert de Chausson le quatuor Agathe et surtout le pianiste Franck Bralet, avec qui il s'entend très bien, avec qui il aime jouer. Et ils ont monté ce programme avec ce concert de Chausson, mais aussi la sonate de Lequeux, deux compositeurs dont le langage fut influencé par Wagner et puis deux œuvres dédiées aussi à l'un des plus illustres violonistes de sa génération, Eugène Ysaÿe. Et la sonate pour violon de Lequeux est très belle. On n'a pas si souvent l'habitude de l'entendre. C'est vrai que ça fait partie de ces œuvres qui ont été beaucoup jouées à l'époque par de grands violonistes, qu'on pense à Menuhin ou Arthur Grumio. Et puis, tout d'un coup, elle est peut-être un petit peu plus laissée de côté par les interprètes d'aujourd'hui. C'est une œuvre bouillonnante et passionnée, écrite par un musicien de 22 ans, techniquement redoutable évidemment, puisque Ysaÿe en était le dédicataire. Voici donc son final.
Thank you.
La sonate pour violon de Lequeux par Gabriel Le Magadur, ici avec Franck Bralet. C'est notre disque du jour à réécouter, à podcaster sur francemusique.fr. Si vous aimez également le concert de Chausson, vous pourrez l'entendre sur le même disque.
Il y avait trop de notes.
Il y avait dans la sonate de Lequeux.
Je veux retirer des notes.
D'accord,
et vous
voulez quelque chose de plus intime.
Avec très peu de notes. Ce n'est pas une nouveauté, ce disque, il est même plutôt ancien, mais j'avais envie de vous le faire écouter parce que je l'ai redécouvert à l'occasion d'une intégrale Monteverdi de l'ensemble Nuovo Musicè. Et en fait, avant de se lancer dans cette intégrale Monteverdi, qui est donc l'intégrale des 9 livres de madrigaux, eh bien ils avaient enregistré ce disque Arvo Pärt, qui est leur seule excursion du côté de la musique du XXe siècle, mais qui est un très beau disque. Et vous venez d'entendre ici le Magnificat d'Arvo Pärt. Je vous avais passé cet ensemble, le Nuovo Musicè, il y a peu, puisqu'ils avaient enregistré, pour finir leur intégrale Monteverdi, des inédits, des fragments de Monteverdi. Mais donc ça, c'est le disque prochain. Et entre-temps, j'ai loupé un des disques de cette intégrale. Donc je voulais vous le faire réécouter. Ici, le Dixit Dominus Monteverdi, l'ensemble Nuovo Musicè.
Thank you.
très beau disque Monteverdi. Allez voir ce que fait cet ensemble Nouveau Musici. C'est pour un petit label, c'est Brillante Classique, qui enregistre, enfin petit, non, pas si petit que ça finalement, vu le nombre de disques qu'on reçoit. Mais allez voir ce que fait cet ensemble, ce sont des disques de très grande qualité. Ici, c'était le Dixit Dominus de Monteverdi.
France Musique, en piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier.
La danse rustique de Respighi par le Doué di Duo. C'est le nom de ces musiciens.
Qu'on traduirait comment ?
Pardon ? Je ne sais pas.
Le duo à deux.
Le duo à deux, oui, c'est ce que je pense. Et en plus, sur la photo, ils ont mis un canapé au milieu de la rue, ils sont assis dessus. Ah, pas faire ça, c'est très dangereux.
Oui. Ah bah oui, très dangereux. Il y a peut-être des punaises de lit, non ?
Ah, moi, je pensais une voiture qui arrive à ce milieu de la rue. Vous êtes très parisien sur votre, sur vos problèmes de canapé.
Bah, c'est déconseillé de prendre les canapés dans la rue, je
crois. Oui, ça, c'est sûr. Vous avez raison. Une pièce baroque, une pièce romantique inspirée de la musique baroque. C'est elle que vous venez d'entendre. C'est Danse antique et air pour lutte de Respighi. Donc, d'abord écrite à l'orchestre. On l'avait déjà entendu récemment. Mais le compositeur en a fait un arrangement pour piano à quatre mains. Et donc, ça s'inspire de pièces pour lutte des 16e et 17e siècles. Donc, d'un côté, on a Respighi qui se veut baroque, et de l'autre, on a un Rameau qui se veut romantique, puisque notre duo a enregistré une transcription d'air des Indes galantes par le compositeur et organiste Léon Roque, qui est mort en 1923 et qui était très célèbre justement pour ses transcriptions de pièces, non seulement baroques, mais aussi de son temps, puisque je crois qu'il a fait pas mal d'arrangements de la musique de Debussy pour piano ou pour duo de piano. Et donc, ces arrangements d'air de Rameau sont enregistrés pour la première fois dans cet arrangement de Léon Roque. On va entendre les deux premiers mouvements.
Thank you.
La musique de Rameau, romantisée pour en tout cas un instrument qui n'existait pas à son époque, le piano, et ce sont les airs des Indes galantes qui ont été arrangés par le compositeur Léon Roque. Premier enregistrement mondial de cette version par le Doué, dit Douo.
Il est tout seul, c'était mon coup de cœur du mardi 2 avril. Nous sommes le vendredi 5 avril et j'y reviens. Sur le violon d'Isaïe, il a enregistré ses sonates sur le violon du compositeur, c'est Sergueï Khatchatryan. Très beau disque qu'on a diffusé dans cette émission, c'était disque coup de cœur et je voulais revenir un petit peu sur la discographie de ce merveilleux violoniste, une discographie pour le label Naïve. Alors, il y avait eu un tout premier disque autour de Sibelius, je ne sais pas si vous vous souvenez, une version très belle du concerto, puis après il y a eu les deux concertos de Shostakovich, un disque formidable avec l'Orchestre National de France sous la direction de Kurt Mazur. D'ailleurs, Khatchatryan a beaucoup joué sous la direction de Kurt Mazur. Et puis après, on a découvert des disques avec sa sœur, pianiste. Et ensemble, ils forment un duo. Ils ont donné beaucoup de disques avec l'usine Khatchatryan, notamment un disque autour de leurs racines. Et puis, un disque Brahms avec une intégrale des sonates qui était sublime. Et je voudrais vous faire écouter la première sonate de Brahms. Et vous allez voir l'entrée, la première phrase du violon, je trouve, a une poésie incroyable sous le jeu de ces deux musiciens, Sergueï et l'usine Khatchatryan. Khatchatryan. La sonate de Brahms numéro 1, Sergueï et Lousine Khatchatryan. Je vous avoue que c'est vrai que...
Il est arménien, donc Khatchatryan.
En tout cas, sublime violoniste. Je vous invite à découvrir ses différents disques, et notamment le dernier, avec une intégrale des sonates d'Isaïe sur le violon qui a appartenu à Isaïe. C'était le disque coup de cœur de mardi dernier.
Merci Rodolphe, c'est vrai que j'étais très heureuse de redécouvrir ce Brahms, parce que je suis comme vous, je suis une grande fanatique de ce violoniste qu'on n'entend pas assez
souvent.
Non,
les disques sont mesurés, mais chaque disque est important, donc c'est ce qu'on peut espérer de mieux finalement.
France Musique.
Un disque dont on vous a parlé récemment, celui de Célia Onetto Ben Saïd, pianiste avec l'Orchestre National Avignon-Provence et Déborah Waldman comme chef d'orchestre. Alors il y avait deux musiciens, Marie-Gelle et Franz Liszt. On avait écouté le premier concerto de Marie-Gelle et je vous avais dit que ces deux musiciens, c'était pas un hasard, ils s'étaient retrouvés sur cet opus parce qu'ils étaient très proches et Franz Liszt aimait beaucoup la musique de Marie-Gelle. Ils se sont souvent retrouvés au piano ensemble à échanger autour de leur composition. Alors, puisqu'on a entendu Marie-Gelle, aujourd'hui, on va entendre Franz Liszt, le premier concerto, mais...
Mais la question concerne justement ces concertos. Combien y a-t-il de concertos pour piano de Franz Liszt? Combien y a-t-il de concertos pour piano de Franz Liszt? 2, 222 ou 22?
222, c'est...
Ah, Liszt est capable de tout.
Oui, vous avez absolument raison. 222 ou 22, votre réponse c'est sur le site internet En Piste, francemusique.fr, la page émission En Piste avec votre adresse postale. On attend vos réponses et on écoute les deux derniers mouvements du premier concerto de Liszt sous les doigts de Célia Onetto Ben Saïd. Thank you.
Thank you.
Le premier concerto pour piano de Franz Liszt sous les doigts de Célia Onetto Ben Saïd avec Déborah Wallman à la tête de l'Orchestre National Avignon-Provence. Il y a également la musique de Marie-Jaël sur cet opus. Donc là, c'était le premier concerto de Franz Liszt et des concertos,
il y en a deux, parce qu'il y en a un second que vous pouvez écouter qui est très beau aussi.
Qui est long, qui est en un mouvement.
Oui.
Souvent
oui,
d'une vingtaine de minutes. Très beau concerto également. Merci pour vos nombreuses réponses. On vous souhaite un très bon week-end à l'écoute de France Musique. Merci à Thomas Guinegagne, Léa Gramusset et Karine David.
À réécouter sur francemusique.fr.